Dans ce cantique, enfin, ça vous laisse le temps de réfléchir. Est-ce que à chaque fois que vous pensez au Seigneur, il y a des fontaines de joie qui sortent de vous? Enfin, moi, je dois confier que bah, pas toujours, hein. Pas toujours, et il m'a fallu arriver à la deuxième strophe pour me rendre compte de ce que je chantais et me dire, ah mince. Je te chante, Seigneur, je pense à toi, mais les fontaines de joie, elles n'arrivent pas encore. Et je dois confier que je suis toujours en lutte avec moi-même. Je me bats avec mes pensées, avec mes désirs, avec mes vaines passions, avec la paresse. D'un côté, dans le sens de l'inertie, hein, il y a des choses à faire. Où vous avez des gens à voir, et puis vous dites, ouais, c'est une bonne chose à faire, et puis, oh, j'ai pas le courage, j'ai pas le temps, je dois me reposer. De voir ce qui est bon et de pas le faire, c'est ce que j'appelle une forme de paresse. Et de l'autre côté, je me lutte avec l'activité débordante de mon travail qui me prend du temps, et j'essaie de, qui m'impose un rythme et que j'essaie de freiner un petit peu. Récemment, j'ai demandé à Marie-Léna si j'étais quelqu'un de médiocre. Et quand vous posez ce genre de questions et vous voulez une parole encourageante, il ne faut pas la poser à votre épouse. Cela dit, ce n'est pas que, c'est pas des paroles en, c'est pas que votre épouse ne veut pas être encourageante ou gentille, mais elle va vous dire la vérité. C'est bien ça. Si vous voulez la vérité, demandez à votre épouse. Elle vous dira la vérité. Elle va pas dire oh, mais si, t'es bien et tout. Non, non, elle va vous dire la vérité. Et c'est ça que j'aime bien. Dans la relation de couple, on peut parler, être vrai. On n'est pas là à dire bon, si je dis ça, il va penser que je suis dans le jugement ou quoi. Non, on peut se parler franchement. Tout en essayant de s'encourager quand même. Et donc, je pose cette question à Marie-Léna et elle m'a répondu très justement que c'est une question bien prétentieuse que tu poses là. Et j'ai réfléchi et j'ai dit, ben, c'est vrai. Qui suis-je pour dire quel genre de vie moi j'ai, si ma vie elle est médiocre ou si elle est bien ou si elle n'est pas bien ou si. En fait, je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas vraiment comment elle est ma vie. Au fond, je sais ce qu'il faut faire, mais je ne sais pas vraiment comment elle est ma vie. Qu'est-ce que j'attendais comme réponse? Je m'attendais pas à une réponse comme celle-là, mais finalement, je crois que c'était une réponse très juste de sa part. Vous connaissez bien cette phrase du dessin animé Megamind. Moi, c'est une phrase qui m'a fait toujours rire. Megamind, c'est un super vilain. En fait, c'était un bon, mais les bébés ont été échangés. Il se retrouve dans une famille de super vilains. Il est élevé comme un super vilain. Et il arrive sur scène en disant « Je fais le mal et je le fais bien. » Et ça m'a fait beaucoup rire au début. Et puis j'ai réfléchi à l'autre phrase qui n'est pas dite, mais à laquelle on pense implicitement. « Je fais le bien. » Mais je le fais mal. Hein, comment Rosa a tout de suite tilté. Hein. Récemment, j'ai posé cette question à Marina parce que j'ai entendu cette phrase qui m'a perturbé. La médiocrité, c'est la moisissure de l'âme. Ah, je veux pas être quelqu'un de médiocre et je crois qu'aucun d'entre nous n'a envie d'être quelqu'un de médiocre. Pourtant, et en plus, que mon âme pourrisse, j'ai pas envie de cela, et personne n'a envie de cela pour son âme, ni pour l'âme de son prochain. Alors l'idée, c'est pas de savoir est-ce que je suis médiocre ou pas. Finalement, c'est pas ça qui compte, c'est est-ce qu'il y a de la moisissure sur mon âme. C'est ça, l'idée. Nous ne sommes pas appelés à être médiocres. Le Seigneur nous a appelés à être saints, mis à part. Et si vous croyez que je mets la barre très haut, parce qu'on dit saint, c'est être mis à part, ça ne veut pas dire être un saint avec une auréole, jamais faire de mal. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais écoutez ce que Jésus dit à ses disciples. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Là, la barre est haute, et je crois qu'il n'y a pas de barre plus haute que celle-là. Enfin, je veux dire, si à l'infini, c'est celle-là. Elle est à l'infini, cette barre-là. Alors on se dit, c'est pas possible. Et c'est pas possible aux hommes. C'est pas possible aux hommes. Mais c'est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. J'ai reçu ma réponse à cette question, suis-je quelqu'un de médiocre, par Marie-Léna, mais le texte aux Romains que je voudrais partager avec vous m'a éclairé aussi. Et j'espère que j'arriverai à vous transmettre cela ce matin. Dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2, vous connaissez très bien ce passage, on l'a étudié très récemment avec Pierre et en profondeur. Mais je voudrais vous le présenter dans une autre perspective. Paul dit: Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne et votre vie en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous l'adoration véritable. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. J'ai pris une autre traduction exprès pour nous perturber un petit peu, mais pour aiguiser votre écoute. Parce que combien de fois on écoute l'évangile sans l'écouter, en disant je connais le texte. Je connais le texte, mais c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous parle. Je vous exhorte. Pour Paul, il ne s'agit pas de développer une pensée théologique, il l'a fait déjà, et puis pour montrer combien il est intelligent. Et depuis 11 chapitres avant, on dit, mais quelle pensée il développe? C'est invraisemblable ce que Dieu a mis dans le cœur et dans la pensée, dans l'intelligence de cet homme. Mais à ce moment-là, il veut que tout ce qu'il a dit avant, ça se traduise en actes dans notre vie. C'est le point charnière. C'est comment appliquer ce que nous savons juste. Je sais ce qui est bien. Je sais ce qui est bien. Et je veux bien le faire. Je veux pas le faire mal ou encore pire. Ne pas le faire du tout. Et Paul est en train d'essayer, et il dit, je vous exhorte. Alors il les exhorte, on pourrait dire, je vous demande avec empressement, je vous demande de faire cela. Et moi je me suis dit, en lisant ce texte, je me dis, mais comment je vais réussir à même me souvenir de ce que j'ai dit demain? Comment je vais faire? Comment je vais faire pour que mes frères et sœurs n'oublient pas ce que je vais partager ce matin, demain matin, lorsqu'ils vont se réveiller et ils vont dire, ben voilà, je commence une autre semaine, et que cette exhortation, elle puisse vous suivre. Je ne sais pas. Mais je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu. C'est une magnifique entrée en matière, parler de la tendresse de Dieu. Il y a d'autres traductions, hein, c'est par les compassions de Dieu. En fait, Paul, il n'a parlé dans Romains que de cela, de la tendresse de Dieu. La tendresse, c'est comme une maman avec son bébé, quand il est là et qu'elle le prend dans ses bras et qu'elle lui donne plein de bisous. Ça, c'est la tendresse. Ou un papa, pareil. Ça, c'est la tendresse. Ou je pense à deux personnes âgées sur un banc qui ont vécu 50 ans ensemble et puis qui se tiennent par la main. Ça, c'est de la tendresse. Mais Dieu, c'est pas moins que cela. Il a une tendresse pour nous, une compassion pour nous. Et le donc dont le texte parle, il fait référence aux 11 chapitres précédents, où Paul parle de grandes doctrines de notre vie chrétienne, des grands thèmes de la théologie qui ont été la puissance de la grâce, l'universalité du péché, la justification par la foi, le sacrifice de Jésus-Christ, l'action de l'Esprit, le salut qui est promis et donné à tous, aux juifs et aux païens. Mais tout ceci revient toujours à un sujet unique. Et ce sujet unique, c'est la tendresse de Dieu, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu. Si vous ne connaissez pas cet amour, vous ne comprendrez rien à ce que Paul veut vous dire ce matin. Rien à travers l'Écriture. Alors on a chanté, tu fais jaillir en moi des fontaines de joie. Seigneur, quand je pense à toi. C'est de cela. Paul, il est en train de dire, je vous exhorte par les compassions du Seigneur de faire jaillir. Il veut faire jaillir les fontaines de joie pour assimiler ce qui va suivre. Parce que sinon, on ne peut pas l'assimiler. Ce n'est pas possible. On n'y arrivera pas. Cet amour de Dieu pour nous, il est patient. Il est plein de bonté. Oh, il n'est pas envieux. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. C'est un amour qui excuse tout. C'est un amour qui croit tout. C'est un amour qui espère tout de nous. C'est un amour qui supporte tout de nous. Comme dans toutes les lettres de ça, c'est tiré d'un Corinthiens 13, et dans toutes les lettres de Paul, Paul tire ses lecteurs les conséquences, vers les conséquences de son enseignement. La découverte de la tendresse et de l'amour de Dieu qui est censé bouleverser nos vies. C'est ça qui bouleverse nos vies. Et il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas une logique qui va bouleverser nos vies. C'est l'amour de Dieu qui va bouleverser nos vies. C'est ressentir cet amour. Je vous exhorte donc, mes frères, par la tendresse de Dieu. Et ce qu'il va dire ensuite, ça a un lien étroit, parce que tout ce qui est écrit avant et tout ce qui va être écrit après, c'est à cause de la tendresse de Dieu. Dieu veut faire à tous miséricorde, dit-il au chapitre 11, verset 32. Faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Il n'y a pas à hésiter. À ce Dieu si étonnant par sa tendresse et sa volonté de sauver toute l'humanité, sans exception. Il n'y en a pas un d'entre nous qui pouvons échapper à ce salut si il s'avance vers le Seigneur. Pas un d'entre nous. Il n'y a pas un péché qui ne veuille pardonner si on lui remet toutes ces choses. Et quand on parle, ah oui, il y a un péché contre le Saint, ce péché contre le Saint-Esprit, c'est la non-repentance. C'est tout. C'est nier, nier cette repentance, nier la grâce. La puissance de Dieu pour nous accorder le pardon est inouïe à la mesure de son amour. Il n'y a qu'une seule réponse qui est possible, une seule réponse à cet amour, c'est l'abandon. Donner sa confiance, accorder toute notre vie, toute notre personne à cette réalité bouleversante que ben, Dieu m'aime. Tout ce qui est fait, tout ce qui se passe autour de moi est une conséquence de l'amour de Dieu. Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à offrir votre personne et votre vie en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous l'adoration véritable. Un jour, nous parlions du baptême avec Jan Opsich, que vous connaissez, dont certains connaissent ici, qui nous a enseigné maintes et maintes fois. Et il m'a fait cette réflexion qui m'a beaucoup éclairé. Il m'a dit, le baptême, c'est une réponse spontanée, émotionnelle, immédiate à l'amour de Dieu, à sa miséricorde, à sa tendresse, à son pardon, à ce qu'il a fait pour nous au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Mourir avec le Seigneur, Romains chapitre 6. C'est ça, et on a chanté ce cantique, et on le chante. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour, je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. Et celui-là aussi, quand je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus mon roi, ah, je n'aspire qu'à m'immoler tant je désire te ressembler, tant je désire te ressembler. Offrir votre personne et votre vie en sacrifice vivant, c'est pas une vie médiocre, ça. Et la plupart d'entre vous l'avez fait. Et quand on l'a fait, c'est une fois pour toutes, elle lui appartient, votre vie. C'est pas moins que cela, offrir l'entièreté de sa vie, rien garder pour soi. Alors, pour ça, il faut se dire qu'il n'y a rien qui compte plus que l'amour de Dieu. Peut-être pour ça, il faut ne rien avoir en ce monde, ne rien posséder. Je vous ai parlé souvent de Micha, ce petit orphelin russe, mais je vais vous raconter encore son histoire parce que rien qu'à la raconter, à me la raconter à moi hier soir, ça m'a fait du bien. Ça se passe dans un orphelinat et il y a deux missionnaires américains qui sont là pour en Russie, qui bossent là et pour ils sont là au moment de Noël et pour aider dans une campagne. Ils sont des gens qui sont là pour quelques semaines et ils apprennent à connaître les enfants qui sont là dans l'orphelinat et donc ils préparent Noël et ils racontent l'histoire de Noël et comme on fait avec les enfants, ben, on leur donne des petites activités manuelles et là il faut faire une mangeoire avec l'enfant Jésus dans la mangeoire et puis les rois mages autour, enfin la crèche quoi. Et ils font le tour des petits ateliers, des tables où sont en train de travailler les enfants, et puis ils arrivent à la table du petit Micha, et puis ils regardent, et ils disent, mais Micha, est-ce que tu as bien compris l'histoire qu'on t'a racontée? Micha, il dit, oui. Et il commence à la raconter l'histoire de l'enfant Jésus qui est venu pour... qui est né de la Vierge Marie, qu'on a mis dans la mangeoire, qui est le Fils de Dieu, auquel rend hommage toute la création et les bergers, et même des animaux peut-être qui sont là. Et puis il y a là les mages qui viennent pour montrer que toute l'humanité lui rend hommage. Mais ce qui est, il dit, mais pourquoi il y a deux bébés dans le berceau? Et le petit Micha dit en pleurant, j'avais pas de cadeau à lui offrir. J'avais pas de cadeau pour mon Seigneur. Rien. Alors j'ai demandé à Jésus si la chaleur de son corps, de mon corps, serait un cadeau acceptable pour lui. Et Jésus, il a accepté. Alors je suis venu dans la mangeoire avec lui. Ça, c'est un enfant qui est prêt à passer par les eaux du baptême. Hein. Il a tout compris. Tout compris. Parce que c'est ça la réponse que notre Seigneur nous demande. J'ai donné ma vie pour vous. J'ai donné ma vie pour vous. Il ne demande pas un cadeau en retour. Mais nous, on dit, mais Seigneur, que puis-je faire pour toi en retour? Ah, du moins, Dieu suprême, prends à jamais mon cœur, qu'il te serve. T'aimes plein d'une sainte ardeur. Ça aussi, on le chante régulièrement. Ça, c'est la réalité. Offrir votre personne et votre vie en sacrifice vivant, ce n'est pas une vie médiocre. Le verbe sacrifier, ça veut dire... Alors, ça peut dire, ah, je vais être sur la croix. Non, non, non. Sacrifier, ça veut dire sacrum facere. Faire saint. Faire sacré, faire... C'est ça, sacrifier, rendre sacré. Ma vie, elle est rendue sacrée pour toi. On consacre. C'est ça, sacrifier sa vie. Alors nous, on a mis sacrifice vivant pour dire que, attends, c'est pas, je vais Mais ça donne envie de s'immoler, on le chante. Je n'aspire qu'à m'immoler, tant je désire te ressembler. On pourrait traduire, je vous exhorte, frères, à faire de vos personnes, de votre vie, une chose sacrée, une chose divine. Et Pierre le dira autrement, il affirme avec force que cela est possible. Et il dit, la puissance divine nous a fait don de tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa puissance agissante. Par elle, les biens du plus haut prix qui nous avaient été promis nous ont été accordés, pour que par ceci, vous entriez en communion avec la nature divine. Et on est invité dans cette démarche. C'est le psaume 40 qui dit, tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice, tu m'as façonné un corps, tu ne voulais ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. C'est en droite ligne des enseignements de tous les prophètes. Michée dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Rien d'autre que de respecter le droit, aimer la fidélité et marcher humblement avec ton Dieu. Je reprends le texte, offrir votre personne et votre vie en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu, c'est là pour vous l'adoration véritable, nous dit Paul. Et si on regarde un petit peu dans la traduction, véritable, adoration véritable, le mot, j'ai pas fait de grec, mais j'ai regardé dans un commentaire, et le mot qui est employé ici, c'est logikos. Logikos, logikos. Ça vous fait penser à quoi? L'adoration logique. Bon, ça va pas bien, quoi. L'adoration logique, ça retombe. Véritable, c'est. Mais c'est logique. C'est comme ça. Si vous voulez être dans le raisonnement, mais c'est normal. C'est l'élan du cœur. C'est laisser aller son cœur. Alors, pourquoi mon cœur, il s'en va pas, il se laisse pas aller comme ça. Logiquement. Logiquement. Peut-être parce que les compassions du Seigneur, je ne les ai pas encore assimilées suffisamment dans ma vie. Peut-être que je dois aller rechercher encore et encore. C'est cette attitude, c'est la réponse logique à Dieu pour nous. Il ne s'agit pas en fait, de gestes extérieurs, mais d'un culte qui nous engage vraiment, totalement, et qui nous transforme en profondeur. Paul va consacrer toute sa vie au Seigneur après son appel. Et il consacrera son temps d'écriture à encourager ses frères et ses sœurs. Pourquoi? Parce que dans notre nature, on est fait pour partager cela. C'est pas pour nous tout seuls. Comme ils ont partagé au petit Micha, nous on partage ça à ceux qui nous entourent, à nos enfants, à nos familles, à notre assemblée, à notre église. Et la mission de l'Église, c'est de partager ça avec le monde. Ça ne fera pas de nous avoir des vies médiocres, même si de l'extérieur, on peut avoir des vies de crétins, comme on nous appelait dans le passé, chrétiens, crétins. Nos vies peuvent paraître complètement nulles aux yeux du monde, et on peut, comme on se débat avec nous-mêmes, à force de se débattre dans l'eau, eh ben on arrive au bord. Oui, on arrive au but. Alors la nage, elle n'est pas formidable, certes, mais on arrive de l'autre bord. Parce qu'on se bat. On se bat avec nous-mêmes. Oh, j'ai entendu une belle exhortation avec Richard et Marie cet été. Mais il y a une chose qui a été dite qui m'a frappé. Et puis il dit, mais quand vous étiez plus jeune, vous retournez vers votre enfance, si vous connaissiez le Seigneur quand vous étiez enfant ou plus jeune, lorsque vous avez donné votre vie à Jésus, et vous vous dites, oh là là, qu'est-ce que j'étais proche du Seigneur à ce moment-là. Et puis, vous savez pourquoi aujourd'hui vous vous sentez moins proche du Seigneur? Alors on se dit, ben ouais, on est adulte, on rationalise. Et sa réponse m'a terriblement perturbé. Il dit, parce que vous avez accumulé plus de choses dans vos vies. C'est l'accumulation des choses, pas des péchés, des choses dans lesquelles nous mettons notre confiance. Un enfant met sa confiance, pas en lui-même, éventuellement dans ses parents, mais un enfant comme Micha, il ne sait pas en qui mettre sa confiance. Il peut mettre sa confiance qu'en Dieu. Ça, c'est la réalité de notre existence. On ne peut pas mettre notre confiance dans notre maison, notre voiture, notre compte en banque. Je le répète à chaque fois, mais il faut se le répéter tous les jours. C'est pas ça. C'est pas ça qui va nous sauver. C'est pas nos familles qui vont nous sauver non plus. Et c'est pas notre Église qui va nous sauver. C'est notre Dieu, à travers le sang et le corps de Jésus-Christ. C'est son amour qui va nous sauver, qui va nous transformer en renouvelant notre façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu à chaque instant, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait, dit Paul à Timothée. Accepter de renouveler notre façon de penser, c'est la conversion. C'est ça. On doit penser différemment. Demain matin, quand je vais me lever, aujourd'hui c'est facile pour moi. J'espère que pour vous, ça l'est un peu plus. Parce que j'ai préparé ça pour vous et pour moi surtout. Mais j'espère que demain matin, on va tous se réveiller et qu'on va y penser encore. Pas parce qu'on y pense, mais parce que on sera saisi de l'amour de Dieu. Accepter de renouveler notre façon de penser. Je regarde juste 2 minutes pour vous parler de Pierre. Juste un exemple. En Matthieu 16, Pierre fait cette magnifique confession. Oui, tu es le Messie. Quand Jésus demande à ses disciples, qui suis-je? Tu es le Messie. Et Jésus lui dit, ah, il dit, c'est bon que ce soit l'Esprit qui t'ait révélé ces choses. Mais vous savez que le Christ va mourir. Et il le dit à ses disciples en disant, je vais mourir. Je vais souffrir, mourir. Et là, Pierre, il dit, non, c'est pas possible. Non, non, tu peux pas vivre ces choses-là. C'est impossible. Moi, je me tiendrai là pour te sauver, pour te défendre. Et Jésus dit, arrière de moi, Satan. Vous voyez avec quoi on se bat? Entre cette pensée du monde et la pensée de l'esprit. C'est pas simple de suivre le Seigneur, car ses voies sont tellement en contradiction avec les voies que nous offre le monde. Complètement en contradiction. Parfois. Pas toujours. Parfois. Mais l'Esprit nous a été donné pour susciter en nous ce renouvellement. Il nous mènera vers la vérité tout entière, dit Jésus en nous parlant de l'Esprit qu'il avait promis à ses disciples. Il nous mènera dans la vérité tout entière. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alors cela exige que nous acceptions de ne pas prendre pour modèle le siècle présent. Et quand Jésus dit ça, quand Paul dit ça plutôt, il entend le siècle présent, son siècle à lui, bien sûr, les Romains avec l'idolâtrie, la corruption des mœurs, mais il parlait de la pensée du monde. Cette pensée-là, elle est la même aujourd'hui. C'est la pensée du monde, une pensée qui est contraire à la pensée de Dieu. C'est une pensée contraire. Alors pourtant, Dieu nous demande d'aimer le monde. Oui, on doit aimer le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et pas moins que ça, nous devons aimer le monde, pas la pensée du monde, mais aimer le monde, aimer la vie. Aimer les gens, aimer les pécheurs. sans aimer les péchés. Aimer les choses bonnes qui sont faites dans cette existence. Le roi David s'était fait aussi cette réflexion à un moment donné. Il dit, mais j'étais plus proche du Seigneur lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais avec ma harpe, comme on l'imaginait, je ne sais pas si tu es avec sa harpe en train de conduire les brebis, mais quand il était en train de conduire les brebis et qu'il priait, et qu'il était avec son Seigneur, lorsqu'il a lancé cette pierre sur le front de Goliath. Non pas pour paraître devant les hommes, mais juste parce que cet homme, ce Goliath, avait insulté le peuple de Dieu et le nom de Dieu. Il s'est tenu là-devant. Et nous, il y a tant de Goliaths devant lesquels nous devons nous tenir dans cette société. Tant de Goliaths où nous devons dire non. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas insulter le nom de mon Dieu de cette manière-là. Bon, c'est, on va dire, ben, voilà encore un illuminé. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est ça, être prophète. L'Église, c'est le rôle prophétique de l'Église, être prophète. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du malin, dit le Seigneur dans sa prière sacerdotale. On est dans le monde, on n'est pas du monde. Et c'est difficile. On a des choix à faire, et ces choix ne doivent être dirigés que par une seule chose, l'amour de Dieu et la tendresse de Dieu. Alors, vous allez peut-être vous dire, oui, mais ma vie, elle est quand même médiocre. Quand je regarde mon existence, j'ai quand même une vie, pas être satisfait. J'avais tant d'espoir. Je voulais me marier, avoir des enfants, ben, j'en ai pas, par exemple. Je voulais construire une entreprise. Je ne parle pas de moi-même, mais des choses qu'on peut avoir dans la tête. Construire une entreprise, donner du travail aux gens, c'est des bonnes choses, des bonnes choses. Mais voilà. Ben, j'ai commencé et puis mon entreprise, elle est tombée à l'eau. J'ai fait faillite. Je me retrouve à la rue. Ma vie, elle est médiocre. Non, votre vie, elle n'est pas médiocre. Il n'y a pas aucune vie qui appartient au Seigneur qui est médiocre. Même celui qui se retrouve dans la rue un jour, à tendre la main, sa vie, elle n'est pas médiocre si elle appartient au Seigneur. J'espère qu'on n'aura pas à traverser des épreuves difficiles comme celle de se retrouver un jour à la rue, que personne d'entre nous. Certains ont peut-être vécu ça un jour. Mais si j'ai un jour ça vous arrive, sachez que le Seigneur vous aime. Je voudrais vous lire en guise de conclusion ce passage que j'ai déjà lu lors de la dernière exhortation, mais c'est quelque chose qui m'habite en ce moment. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Colossiens chapitre 3, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et même vous, vous ne pouvez pas voir votre vie réelle. Elle est cachée, votre vie, avec Christ en Dieu. Comme l'ignoble gâchis du sacrifice de Jésus-Christ aux yeux de ses disciples au départ. Mais pour nous, quelle victoire! Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Je vous demande de prier avec moi. Seigneur, merci pour cette parole pour avoir inspiré ces choses à l'apôtre Paul. Et nous aussi, Seigneur, tu nous envoies dans le monde. Pour vivre ta vie. Parce que nous sommes ton corps, Seigneur. Nous sommes tes membres. Nous sommes ta bouche. Seigneur, rends-nous forts. Rends-nous forts de la force de l'esprit, non de la force et des puissances de ce monde, Seigneur, mais de cette puissance qui a créé les cieux et la terre par amour. De cette puissance, Seigneur, qui touche le lépreux, qui relève celui qui est affligé. Cette puissance, Seigneur, qui relève les malades, qui encourage, qui va vers les petits de ce monde, Seigneur. Nous sommes si petits devant toi et Seigneur, nous nous sentons tant de fois impuissants devant la pensée de ce monde. Aide-nous à nous tenir fermes comme des David devant Goliath. Non par vengeance, mais par amour. Bénis cette église, Seigneur, et que ces paroles ne tombent pas dans l'oubli, tout à l'heure ou demain, mais qu'elles nous habitent tous. Par le nom de Jésus-Christ. Amen.